19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir chers amis, bonsoir, bonsoir, nous sommes ensemble durant une heure jusqu'à 20h dans les informés, comme chaque soir, vous le savez, commenter, analyser, décrypter l'actualité. Alors ce que je vous propose au menu ce soir, eh bien tout simplement, c'est de retrouver trois sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui. Meeting de Pécresse, nous reviendrons avec nos débatteurs, sans aucun doute, l'un des plus mauvais discours de la 5ème République. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est certains acteurs politiques. On reviendra sur ce sujet, justement. Parce que ça pleut de partout concernant Valérie Pécresse. Mais que se passe-t-il ? Éric Zemmour, au 20h de TF1, il dit quoi ?
Au putain.
Il dit ? Comment ça, au putain ? Vous craquez ou quoi, Jimmy, là ? Les musulmans sont mes frères s'ils respectent la France et s'ils s'approprient notre histoire et nos mœurs et pratiquent leur religion dans la discrétion. Je laisserai le soin aux auditeurs de venir commenter cette déclaration d'Éric Zemmour.
Il n'a pas dit
d'accord.
Il n'a pas dit pratiquer avec.
Je discrétion. Vous laisse parler, mes chers amis. On est au sommaire là. Ensuite, autre sujet qui a retenu notre attention, vous le savez, c'est l'Ukraine, la menace d'invasion imminente, la crise diplomatique atteint son plus haut niveau de summum. Alors, on est en pleine attente. Est-ce qu'on n'est pas en train d'approcher cette guerre qui risque d'être imminente ? 0153 48 3000, ça c'est le standard qui est ouvert pour vous. Durant une heure, vous pouvez venir intervenir sur les trois sujets que je viens de vous proposer. Les débatteurs sont avec nous, Karim Alouache et Jimmy Dalidou. Le Quoi de Neuf à 19h30, c'est avec Faïza Ben Mohamed qui viendra nous signer un billet d'humeur. C'est parti, les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Allez, c'est parti pour le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Ah, c'est du sport, hein, la radio. Hein.
Ouais.
C'est du sport, ouais, c'est ça. Non, mais moi, quand vous savez, quand je fais une heure d'antenne...
Du sport cérébral.
Quand je sors d'une heure d'antenne, je suis comme si je sortais d'un marathon.
Grave.
Non mais c'est vrai, on donne tout, etc. Jimmy Dalidou, syndicaliste, CGT, mais également aussi auteur. Bonsoir mon cher Jimmy.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Ça va, ça va.
Tout va bien ?
Ouais, ça va.
Bon, face à vous, c'est Karim Alouache, un financier, mais également... Oh, comment il vous a regardé quand j'ai dit un financier ?
Non, non, non.
Il a dit, oh, j'ai le capitalisme en face de moi !
Pas du tout,
j'ai lu
tout,
ça, j'ai dit, oh,
pas du tout.
C'est ce qu'il a fait avec son regard.
J'aime bien Karim, j'aime bien Karim avant qu'on en discute.
Dit, je vous jure, j'ai dit dans ce regard, je vais me le faire, le Karim Alouache. Non, mais il est comme ça, hein. Attention, hein. il a un problème avec le capitalisme, il a un problème avec...
Mais je crois qu'on a fait une émission de télé ensemble.
Il a un problème, c'est quoi encore?
Ah, c'est très possible, mais il y a un petit moment,
la finance, c'est le diable, selon Jimmy Dalidou.
Ouais. Enfin, finance,
et c'est un acteur politique aussi sur la ville de Bondy.
Il fait bien vivre.
Et il lâche pas l'affaire. Hein.
Et j'ai vécu à Bondy pendant 3 ans.
3 ans. Ben, c'est un bondinois.
Donc vous avez un capitaliste financier banquier qui vit à Bondy.
Ah bah il y en a beaucoup. Hein. On n'est pas tous anticapitalistes, on n'est pas tous marxistes révolutionnaires malheureusement.
C'est un marxiste. Hein.
Il a le droit.
Il a le droit. C'est
il
vrai.
A le droit.
Mais justement on va parler de Valérie Pécresse. Vous allez Valérie Pécresse qui reçoit évidemment toutes les critiques qui arrivent dans tous les sens, y compris au sein de son évidemment de son parti, c'est-à-dire les militants sont plus que partagés. Ils sont extrêmement inquiets pour certains. D'autres disent d'ailleurs que Valérie Pécresse, eh bien sans doute, c'est l'un des plus mauvais discours de la Ve République. Ça, c'est des acteurs évidemment politiques qui tiennent ce discours. Et puis beaucoup de ténors de poids lourds s'inquiètent concernant évidemment ce qu'elle peut incarner, Valérie Pécresse. Je vous donne la parole. Comment vous l'avez d'abord trouvée ? Et est-ce qu'elle a été à la hauteur de ce meeting, Karim Alouache ? Vous ?
Bah, écoute...
homme de droite.
Moi, je l'ai... Enfin, je connais très bien une de ses proches collaboratrices et j'avais déjà échangé avec elle par écrit. Je trouve qu'elle est... comment dire ? Il faut qu'elle redevienne naturelle. Ça fait très préparé. Mal préparé. Alors, je ne connais pas son équipe autour, mais je pense qu'ils l'ont extrêmement mal préparé. Et comme on est dans une politique de forme et pas de fond, et ça, c'est dommage, on ne regarde que la forme, sur la forme, elle s'est complètement vautrée, mais parce qu'elle n'est pas naturelle.
Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas naturelle, parce que c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui l'a manqué ? Pourquoi elle a été aujourd'hui ?
Parce qu'elle n'est pas.
Alors... beaucoup disent que effectivement, d'ailleurs, il y a un décalage entre la réalité et ce qu'on, quand on le voit à la télévision. Ils disent qu'il y avait un problème justement, même y compris quand elle lançait, quand elle parlait même.
Parce que en fait, c'est toute l'influence de toute cette catégorie de personnes qui réseautent autour des candidats, qui vont vendre leur communication, qui vont vendre leur stratégie, qui vont aller leur dire il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut plus ceci, il faut plus de cela. Puisqu'aujourd'hui, on est de plus en plus, on est passé en 20 ans de campagnes de fond, de programmes, à que des campagnes de forme, de people, de télé-réalité.
C'est quoi, c'est le Titanic ?
Mais ça, ça a toujours existé.
C'est le naufrage, le Titanic ?
C'est pas que c'est un naufrage, c'est que ben, la forme, c'est très particulier.
Ouais.
La forme, c'est très particulier, c'est un rôle d'acteur. Et c'est pas forcément ce qu'on demande à un homme politique. Donc,
en tout cas, les critiques s'affusent. Hein.
Après, on va pas. La personne en elle-même. Moi, je suis pas élève, de toute façon, je suis dans aucun parti. Mais c'est une personne brillante. C'est une personne brillante.
Mais ça devait être le discours de sa vie, normalement, ce fameux meeting au Zénith de Paris.
Mais c'est planté. Je suis désolé. Non, elle s'est pas plantée, elle. C'est elle et surtout son équipe qui s'est complètement vautrée.
Jimmy Dalidou, vous dites quoi ?
Bah, dans le fond, je reviendrai pas dans le fond de son discours parce que pour moi, ça reste un discours avec une orientation de classe marquée.
Ah bon ?
Bah oui, tout à fait. Les Républicains sont rien de plus qu'un. Pour moi, je resterai sur mes positions marxistes en vous disant tout simplement que c'est un grand parti du capital et qui, de toute façon, va être. A mis en avant, en exergue son candidat. Bon, c'est Madame Pécresse. Moi, je reviendrai uniquement dans la forme. Oui, effectivement, là où je te rejoins. Par contre, c'est sur le fait que, mais ça touche depuis que les élections en France ont toujours fonctionné de cette manière-là. C'est-à-dire que la plupart des gens, malheureusement, je dis bien malheureusement, hein, quand ils vont voter, quand vous posez la question à des personnes deux semaines avant les élections, au premier tour et au deuxième tour, c'est un peu particulier, mais au premier tour, deux semaines avant, vous leur posez la question pour qui tu vas voter, et des fois même une semaine avant, ils savent toujours pas pour qui ils vont voter. Souvent, en fait, ils vont voter pour une personnalité.
Souvent, au repas du dimanche, au repas de famille du dimanche, avant d'aller voter, ils en sont encore à se demander pour qui ils vont voter. Ça veut dire qu'on est dans un système de vote à la dernière minute, c'est-à-dire que d'abord, il n'y a plus de conviction aujourd'hui, mais je suis désolé, ce quinquennat nous a démontré une chose, c'est que on va dans un parti politique comme on va dans une équipe de foot, on va au plus offrant et on le constate. Un ralliement, ça doit être un ralliement de valeurs, de convictions.
Ce sont des politiques de carrière bureaucratisées, des politiques de carrière. Ce sont des personnes qui sont payées, je sais pas combien, à parler dans des parlements, à parler dans des grands partis qui représentent seulement une classe sociale privilégiée. Et en fait, voilà, si je suis d'accord avec
vous. Vous êtes d'accord là, non ?
Ils sont.
Alors vous êtes complètement opposés normalement.
Ce sont des stars de la politique. Bah, ce sont
pas des
personnes qui sont là pour véritablement mettre en application, en exergue, ce que voudraient mettre en application les besoins de la population.
Mais je reviens sur ce que vous disiez, notamment sur Valérie, c'est quoi cette
tromper la population ?
C'est quoi cette décalage de classe, notamment ? J'ai pas bien compris lorsque vous faisiez allusion à ça.
Comment c'est-à-dire ?
Les
choses sont claires. En fait, dans le système, il y a à peu près trois classes. L'articulation de classe, ça se présente de cette manière-là. Vous avez une classe qui est la classe ouvrière, et qu'on appelle en d'autres termes le prolétariat.
Oui.
Mais c'est important de dire aussi qu'en face, vous avez une classe moyenne, les deux, elles ont particulièrement fait parler d'elles, d'une manière assez pesante, assez forte, lors des Gilets jaunes, je vous rappelle. D'accord ? Et ensuite, vous avez en face d'eux une troisième classe, qui est une classe dominante, qui est la classe, ce qu'on appelle, moi je n'ai pas peur des mots, c'est ce qu'on appelle la classe bourgeoise, monopoliste, c'est-à-dire la classe des banquiers, la classe des
GAFAM.
Et ce sont des personnes, ce sont des personnes qui contrôlent qui sont très copains avec les banquiers, très copains avec les dirigeants de GAFAM.
Vous contrôlez,
elle est là, l'articulation de classe sociale dans ce pays.
Moi, j'ai été.
Bah, vous êtes banquier d'affaires, non?
Et puis moi, je suis pas copain avec eux parce que moi, j'ai été viré, souvenez-vous, de La République en Marche. Parce que j'ai dénoncé le système et les pratiques.
Parce que t'étais pas un banquier fanatique comme Macron, c'est pour ça que t'as été viré.
C'est pas la fonction qui fait la conviction en réalité. Pourquoi tu disais que nous sommes d'accord ? On est d'accord parce que nous on a des débats de fond, on n'a pas des débats de forme. Moi, que dans ce cas-là, demain, je prends une candidate mannequin, super jolie, un peu intelligente, comme beaucoup de Miss France le sont, je la mets à la tête d'un parti, je te promets qu'elle va faire un score. Mieux que certains candidats de gauche. Je crois qu'on en a marre des débats de forme. Et alors que la situation est grave, on a des choses vraiment graves, importantes à régler. Donc sur la forme, tu auras du mal à opposer maintenant des gens parce que tout le monde est d'accord pour dire quand tu as des convictions, la forme, tu t'en fiches royalement. D'ailleurs, pour le discours de le meeting de Valérie Pécresse, on ne parle que de la forme.
Oui.
On oublie, il y a des choses. Je ne suis pas là pour commenter ce qu'elle a dit, mais sur le fond, il y a beaucoup de choses à dire, mais personne.
Bah, dans la forme, c'était nul. Il faut dire les choses comme elles sont. Dans la forme, c'était nul, en fait.
Ensuite, il y a un discours dans ce pays qui est un discours de mensonge.
C'est-à-dire
qui vient de, et qui est un discours qui a été véhiculé par
cette
pression de gauche.
Oui.
Le discours de dire aux gens, si on prend aux riches, vous serez moins pauvres. Ce qui est totalement faux, parce qu'on ne prend pas aux riches. Pour donner aux pauvres.
Ah, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que pour s'enrichir, il faut créer des misères.
Laissez-le finir et je vous donne la parole.
Qu'est-ce que ça veut dire,
Jimmy Dalidou?
On prend pas aux riches pour donner aux pauvres.
Ce que ça veut dire, riche? Bah, demande à Jeff Bezos ou Elon Musk et ces gars-là. Ça veut dire que tu touches plusieurs fois le SMIC. On peut même pas compter le nombre de SMIC le mec qui touche pendant que tu touches 1200 balles et que tu peux pas payer ton loyer. C'est ça la différence entre les riches et les pauvres.
Je suis pas dans cette échelle-là, mais.
Ah non, c'est la vie, hein. C'est la vie, hein. C'est pas.
C'est comme l'histoire.
C'est ce qui se passe là-dedans.
Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, bah, il trouvera toujours un moyen de défiscaliser.
Un bourgeois, un riche.
Donc, ça ne change rien. Le vrai sujet, c'est pas le riche. Moi, ce que je souhaite, c'est que les riches restent vivre en France. Et qui consomme en France. Le vrai sujet, c'est.
Bah dans ce cas-là, qui donne un peu plus en France.
La distribution raisonnable des profits. C'est vrai que quand tu as un total qui affiche plus de 10 milliards de bénéfices et des banques, et c'est très bien. Et c'est très bien. Ce qui serait bien. Alors, les bénéfices, le profit, il y a une part normalement qui va à l'investissement, puisque c'est ce qui fait la performance des entreprises. Et ça, c'est important.
Non, ce qui fait la performance des entreprises, c'est la force de travail. En articulation dans les process de production. Oui, les voitures sortent toujours. Mets les salariés en prison, les voitures.
Il faut de la technologie.
La réalité, elle est là.
Il faut de la technique.
Non, c'est qui crée la performance dans les entreprises, c'est la force de travail exploitée dans les process de production. C'est ça qui crée la performance.
C'est ce qu'il faut regarder. Moi, ce que je dis, ma réflexion, elle est de dire plus il y a de gens aisés en France, mon pays.
Et c'est pas parce que t'as un cerveau de bourgeois que t'es forcément plus intelligent que les autres. C'est ça, elle est là, la réalité de la vie.
Merci. Alors, je reprends. Donc, c'est pas parce que... ce qui m'intéresse...
J'aime bien le merci.
Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de dire il faut que mon pays s'élève, d'accord? Et un pays qui se développe, on mesure son élévation par l'ampleur de sa...
Mais
de
ça, c'est utopique,
moyenne.
Mon cher...
Attends, chef.
C'est utopique.
C'est pas utopique. De la classe moyenne. On ne peut pas avoir, d'un côté, on a un pays qui s'appauvrit, on a un pays qui s'est complètement désindustrialisé, et on a vu la situation pendant la crise, on n'était même pas...
Bah, c'est désindustrialisé à cause de tes financiers, justement.
Des masques. Et puis, de l'autre côté, on a des entreprises qui font des résultats records, et mon entreprise en fait partie, j'en suis très heureux, parce que c'est elle qui me paye aujourd'hui. Ce qu'il faut revoir aujourd'hui, c'est, un... Comment on réorganise tout ça? Comment on permet à d'autres entreprises de se développer? Mais c'est l'entreprise et le travail et la rémunération du travail qui doit s'améliorer.
Là, on a dépassé évidemment. Mais on parle toujours de Pécresse. Jimmy Dalidou.
Non, mais en fait, ton approche, Karim, c'est une approche utopiste. C'est une forme d'utopie financière.
Il va vous répondre.
Parce qu'en fait, t'es en train de me dire que les soi-disant, donc déjà, tu fais la confusion entre ceux qui créent la performance, le profit, c'est soi-disant des mecs qui sont plus qui dirigent les dirigeants d'entreprise.
Bah,
ceux qui créent la France, c'est qui créent la richesse de la France.
D'investissement.
Non, mais c'est pareil. Pour investir, il faut de l'argent, non? Pour investir, il faut bien de l'argent. Il faut bien que tu dégages une valeur. Cette valeur, elle est conditionnée par la force de travail en mouvement dans les process de production. C'est aussi simple que ça. Si tu n'avais pas les salariés, tu t'aurais pas. Non, mais on va revenir. Si tu veux, on revient sur la loi de la valeur. Tu veux qu'on revienne sur la loi de la valeur?
Non, on
n'aura pas le temps. Je vais te démontrer que la valeur qui est générée dans les process de production n'est pas générée par un gars qui est propriétaire des moyens de production, qui plus est. Elle est générée par la force de travail humaine exploitée. Et le problème qui se pose, c'est que Moi, je suis d'accord avec l'entrepreneuriat des TPE, PME, PMI. Mais le problème qui se pose, c'est que ta ligne consiste à dire que dans le cadre du capitalisme de monopole, les TPE, PME, PMI auraient un avenir. Or, c'est faux. C'est faux. C'est justement le capitalisme de monopole qui tue les PME.
Qu'est-ce que vous répondez, Karim Aloche, avant de lancer la pub?
Alors, je réponds que c'est
faux. On a dépassé le stade de Valérie Pécresse.
Alors, je réponds un, que c'est faux, que deux, je ne suis pas d'accord, que trois, sans investissement, il n'y a pas d'entreprise, et que quatre, aujourd'hui, depuis 30 ans, on est dans un système de mondialisation. Si tu n'as pas aussi, parce qu'on a une problématique de taille critique, eh ben, tu ne peux pas lutter contre la concurrence. À moins de fermer ton pays et de vivre en autarcie, ce qui n'est plus possible aujourd'hui.
Allez, on continue justement de débattre, d'échanger, d'analyser. On va parler d'Éric Zemmour, messieurs, mesdames. Zemmour, Éric Zemmour, qui dit, fait ses déclarations au journal de 20h de TF1. Les musulmans sont mes frères, s'ils respectent la France, s'ils s'approprient notre histoire et nos mœurs et pratiquent leur religion dans la discrétion. En gros, soyez discrets et restez chez vous. Pardon. Ah, je me suis lâché. Eh bien, je vous attends à 01 53 48 3000. Qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkan.
Les informés, si vous venez de nous retrouver les 19h21 avec Karim Alouach, financier mais également acteur politique sur la ville de Bondy. En face de lui, c'est Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT mais également aussi auteur. Je voudrais vous entendre partout en France au 01 53 48 3000. Décrochez votre téléphone. Nous vous attendons au standard sur cette petite phrase, cette déclaration qu'a lâchée Éric Zemmour en toute fin de son interview aux 20h de TF1. C'était il y a quelques jours, où il dit la chose suivante. Écoutez l'extrait.
Je pense que on a fait beaucoup de caricatures de moi à partir de textes qui se voulaient des essais, qui se voulaient des essais polémiques dans la grande tradition française.
Certains ont tort de penser que vous êtes un misogyne quand vous dites que les grands génies sont des hommes.
C'est
quand
une bêtise. Je ne suis absolument pas misogyne. Vous savez, j'ai été élevé largement par des femmes. Mes principales collaboratrices et conseillères sont des femmes. Je ne pense pas du tout être misogyne, mais on a créé ce personnage. Je pense aujourd'hui que je suis le protecteur des femmes. Voyez, je pense aujourd'hui que ce qui menace les femmes, ce ne sont pas des propos à l'emporte-pièce, mais c'est l'islamisation du pays.
Je sais pas si c'est, je crois que c'était pas, on s'est un peu planté, c'était pas le bon extrait. Précisément, je pense qu'on a techniquement ça a buggé. On va tâcher de retrouver cet extrait où il dit, je vous le fais tout de suite, je vous attends au 01 53 48 3000, on va commenter cette déclaration. Il tend la main aux musulmans. Voici la déclaration. S'ils respectent la France, s'ils s'approprient notre histoire et nos mœurs et pratiquent leur religion dans la discrétion, ce sont mes compatriotes et je dirais même qu'ils sont mes frères. Karim Alouache, comment vous la comprenez? Quelle interprétation vous donnez à cette déclaration faite aux 20h donc de TF1?
Alors, moi je vais.
Et puis je vous attends au 01 53 48 3000.
Alors, Adil, je vais commenter parce que c'est toi qui me le demande, mais j'aime pas parler de Zemmour parce que c'est.
Sauf que là, il existe. Hein.
Voilà, c'est lui donner trop d'importance.
C'est qu'il est là.
Oui, mais
il risque même d'être au second tour. Hein.
Il est dans
si
un rôle.
Si on n'en parle pas, ce serait évidemment.
Je vous rappelle que l'électorat de Trump était des femmes alors qu'il avait dit que les femmes étaient bonnes pour rester à la maison et dans leur cuisine. Donc, c'est toujours cette forme qui prédomine. Après, ce qu'il a dit, bah oui, il est dans la provocation. De toute façon, la thématique depuis toutes ces dernières années, c'est l'islam, de manière générale. C'est le fil rouge de la campagne, c'est l'islam. Et quand ça se calme, on le réactive. Donc, pendant qu'on parle de l'islam, on ne parle pas d'autres sujets, et c'est assez classique. Quand on dit « il tend la main », comme si les musulmans avaient besoin qu'on leur tende la main, comme si être musulman, c'est quelque chose de négatif. Ça, c'est la première chose. C'est hallucinant. Et la deuxième chose, c'est comme si c'était quelque chose de pas bien, de sale, de quelque chose de pas honorable, c'est très grave ce qu'il dit. Mais qu'il le fasse dans la discrétion, quoi. C'est de quoi on parle, je veux dire.
De quoi on parle? On va écouter l'extrait.
Plus c'est gros, plus ça passe.
Notre réalisateur vient de le retrouver. Écoutez justement.
Je veux dire à mes compatriotes musulmans que si ils respectent la France, si ils pratiquent leur foi dans la discrétion et si ils s'approprient notre histoire et nos mœurs, ils sont mes compatriotes et je dirais même, ils sont mes frères. Et je leur tends la main.
Merci.
Alors, Jimmy Dalidou, je vous rends la parole. Jimmy Dalidou.
vous remarquerez que les propos d'Éric Zemmour sont toujours liés à sa théorie du grand remplacement. Enfin, ce qu'il appelle le grand remplacement. Et en fait, dans le grand remplacement, il parle de culture, etc. Et en fait, là où Éric Zemmour est dangereux, était un véritable danger, je pense, un véritable danger pour...
Vous le pensez vraiment?
Oui, la nation, je vais expliquer. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit, Éric Zemmour? Il te dit que, en fait, le musulman... Donc déjà, il pointe du doigt le musulman en tant que musulman, ce qui est anti-laïcité, puisqu'on n'a pas à mettre en exergue ton appartenance religieuse. Dans ce cas-là, il faudrait mettre pointer du doigt le gars qui porte une kippa. Il faudrait, mais à mon avis, ça poserait problème. Bref, il vous dit quoi? Il vous dit que une personne qui est issue de l'immigration doit s'assimiler. Il a souvent utilisé le terme d'assimilation. Il doit s'assimiler à la culture française. Moi, ce qui me pose problème avec les propos de cet homme-là, c'est que pour moi, la culture, elle n'est pas du tout comme celle qui met en exergue. Mmh. Parce que pour moi, la culture, c'est d'abord une donnée universelle.
Mais ça veut dire quoi dans la discrétion, en fait, votre religion? Pratiquer je comprends pas bien, j'essaie de comprendre. Hein. Pratiquer,
dans la discrétion, pratique c'est religion de la discrétion.
Non, mais ça veut rien dire, en fait. Ça veut dire, en fait, t'es musulman, mais tu...
Dans l'ordre, Karim Aloche, et je vous redonne la parole de Jimmy Dalido.
Plus c'est gros, plus ça passe, et je sais pas où il va s'arrêter. De toute façon, on a créé l'environnement, on lui a créé son aire de jeu, et lui, c'est l'acteur. Il a un rôle d'acteur. C'est un acteur de la politique, parce qu'on fait que de la forme et du people et du visuel, peut-être de l'audimat, j'en sais rien, mais ça, c'est son jeu. Le gars, il te dit, je tends la main aux musulmans. Mais les musulmans, ils n'ont pas besoin qu'on leur tende la main. Tout ce qu'il dit, qu'ils soient intégrés. Mais les musulmans sont déjà tout ça, en réalité.
Vous savez quoi?
On s'en fout de ce qu'il dit.
Alors, je vais, Jimmy Dalidou, je vous redonne la parole. Je vais aller, on va aller tous ensemble, direction Lyon. On va aller cueillir plutôt, les témoignages de nos auditeurs. Comment ils le vivent? Tiens, Auria. Bonsoir, Auria de Lyon.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames.
Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, chère Auria. Bonsoir. Alors, comment vous l'avez vécu, cette déclaration?
Écoutez, alors moi, en toute sincérité, j'écoute pas Éric Zemmour parce que c'est un homme de la haine. C'est un homme qui est là pour diviser.
Oh, mais permettez-moi de vous dire, je vous arrête juste. Quand il dit, il s'adresse aux musulmans. Il dit à mes frères musulmans. Comment vous l'accueillez-vous?
Déjà, c'est une insulte. Hein. Déjà, heureusement, franchement, c'est insultant. Ça veut dire qu'on n'est pas des êtres humains, on est des musulmans.
Oui.
En fait, on est une race.
Oui.
Super.
En gros, il vous réduit à quelque chose, quoi. Il vous renvoie simplement...
À quelque chose, tout à fait. Mais c'est ce qu'il veut faire, de toute façon. Il veut réduire les gens à ce qu'ils ne sont pas. De toute façon, on est des êtres humains. On a une foi qui nous laisse notre foi tranquille. Qui s'attaque plutôt aux problèmes de fond, pas aux problèmes qu'il veut créer aux yeux de la minorité catholique ou européen qui croient que parce qu'on est musulman, on est des gens pas bien. On paye nos impôts comme tout le monde. On est fiers d'être français. Il faut arrêter un petit peu avec ce débat de sourds.
Vous avez bien raison d'exprimer votre témoignage, Auria. Merci d'être intervenu de Lyon.
Je vous en prie.
Je vais prendre une série d'auditeurs. Merci, bonne soirée et merci pour votre fidélité. Fatima de Paris. Bonsoir Fatima, messieurs, si vous voulez bien.
Bonsoir Adil.
Bonsoir ma chère Fatima, on vous écoute.
Bonsoir mon fils. Bonsoir à vos invités. Et à tous ceux qui sont à la radio, qu'on aime beaucoup, BFM. Je voudrais juste rappeler à monsieur Zemmour que nous ne sommes pas des dlimi. Nous sommes des citoyens à part entière. Et en qualité de quoi, il demande aux musulmans de se faire discret ou de ceci ou de cela. En qualité de quoi? C'est un citoyen quand même. Hein. Et nous, peut-être, les citoyens musulmans, ils rendent plus service à la France par le travail que lui qui n'a jamais travaillé. Il n'a fait que glander sur les plateaux de télé et de radio. Donc, on n'a aucun ordre à recevoir de lui. Nous sommes des citoyens. Français à part entière.
Eh bien, merci d'être intervenu, ma chère Fatima.
Merci, mon fils.
Merci. Je vous embrasse. À bientôt. Tarek, qui nous appelle de l'Oise. Et après, je vous écouterai, messieurs. Bonsoir, Tarek.
Bonsoir.
Vous nous appelez de quelle ville de l'Oise?
Ménilantel, c'est un tout petit village.
Tout petit village. Eh bien, on vous écoute, mon cher Tarek. Alors, comment vous le vivez, vous?
Écoute, moi, j'en ai marre de cette énergie humaine, parce que c'est vraiment typique d'hypocrisie en flagrant délit. Quelqu'un qui ose comparer ma religion au nazisme, lors de la convention de la droite, quelqu'un qui ose prétendre que l'islam et l'islamisme c'est la même chose, ou qui dit que l'islam n'est incompatible avec la République, et après qu'il ose prétendre tendre la main, moi il ne mérite que le mépris, en sachant que c'est quand même, il a plus eu affaire à la justice que moi, puisque moi j'ai jamais eu affaire à la justice. C'est un multirécidiviste, il a été condamné pour haine raciale, et il vient de donner des leçons. Mais il se croit où? Ouais. À un moment donné, j'espère que les gens de banlieue vont se réveiller et qu'ils vont aller voter. Votez, s'il vous plaît, parce que franchement, la France devient n'importe quoi.
Je le dis en permanence, mon cher Tarek. La seule arme, le seul outil, le seul pouvoir que vous avez, je vous le dis en permanence, c'est d'aller vous inscrire sur les listes électorales et d'aller voter.
N'oubliez pas, 7 mars, deadline.
7 mars, et oui, vous avez raison de le rappeler. C'est la dernière échéance, 7 mars. Allez-y, courez! Allez vous inscrire sur les listes électorales pour pouvoir exister dans ce paysage politique. Merci, mon cher Tarek.
Merci à vous.
19h30, le Quoi de Neuf.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Et après, on retrouve le face-à-face avec Karim Alouache et Jimmy Dalido. Le Quoi de Neuf, comme chaque mardi, c'est avec Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. Bonjour Faïza, bonsoir.
Bonsoir Adil, bonsoir à tous.
Eh bien, on vous écoute pour votre billet d'humeur qui parle de la loi, qui demande pardon aux harkis. On vous écoute.
Alors effectivement, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de la question des harkis, puisque le Parlement vient d'entériner cet après-midi le projet de loi visant à demander pardon aux harkis pour le préjudice qu'ils ont subi pendant et surtout après la guerre d'Algérie. Alors il faut rappeler qu'il s'agissait d'une promesse du président Macron qui avait reçu plusieurs centaines de représentants de harkis, notamment que c'était en septembre dernier.
C'est ça.
Il leur a vu à cette occasion demander pardon, reconnaissant au moment de l'événement l'horreur des camps, de la prison et surtout du déni qui a suivi. Hein. Il avait été même jusqu'à concéder que la France a manqué à ses devoirs envers les harkis, leurs femmes et leurs enfants. Alors avec cette loi, il va y avoir une ouverture des droits à des indemnisations de ces harkis et de leurs familles. Mais il faut quand même relever quelque chose, parce que cette initiative, elle est certes louable. Elle s'inscrit d'ailleurs dans un plan global de l'État qui veut réconcilier les mémoires liées à la guerre d'Algérie. Il faut quand même pointer les montants assez dérisoires qui vont être accordés à ces gens, puisque les indemnités ne devraient pas dépasser entre à peu près 2 000 à 15 000 euros maximum. Et puis, je voudrais soulever une autre chose, parce que je crois que si on veut vraiment réconcilier les mémoires, puisque c'est ce que dit l'Élysée, on ne peut pas faire l'économie de cette fusion auprès de tous les autres. Parce qu'il y a certes les harkis, mais il y a aussi les centaines de milliers de personnes qui sont mortes et qui ont été blessées pendant la guerre d'Algérie. Et pire encore, je voudrais qu'on n'oublie pas ceux qui, sur le sol français, ont eu à subir la répression sanglante de l'État, ont été victimes de véritables massacres et dont certains corps ont fini dans la Seine.
Ouais.
Alors, mon mot de la fin, ce serait vraiment, je crois qu'il ne faut pas oublier les autres, ceux qui méritent aussi qu'on leur demande pardon et qu'on reconnaisse les atrocités qu'ils ont subies en France.
Merci pour ce billet d'humeur. Comme chaque mardi, c'est votre signature dans le Quoi de Neuf, ma chère Faïza Ben Mohamed, journaliste indépendante. Excellente soirée, Faïza.
Bonne soirée à tous, merci.
À mardi prochain, sans faute, nous allons marquer une courte pause pub et on se retrouve avec Jimmy Dalido. Ah oui, Jimmy, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, ouais, vas-y. Non, pas du tout. Non.
Vous savez quoi, d'ailleurs, il dit Eric Zemmour que si vous voulez devenir mes frères, beaucoup le sont déjà. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui le sont.
Ouais, mais en même temps, il dit beaucoup de conneries sur le grand remplacement. Il y a beaucoup. On n'a pas pu le développer là, j'ai pas eu le temps de développer sur la culture, etc. Mais et moi, contrairement à ce que dit Karim, je pense qu'il faut en parler. Il faut casser tous ces arguments farfelus concernant le grand remplacement, qui est une abomination en fait.
On va en parler. 0153 48 3000, vous aussi, on vous attend.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Dernière ligne droite, 19h38, avec le face-à-face Jimmy Dalido, Karim Alouache, Zemmour qui appelle les musulmans à renoncer à l'islam qui consiste à imposer un code juridique et politique. Je vous attends au 0153 48 3000. Jimmy Dalido alors.
Ouais, alors oui, tout à fait d'accord avec les interventions avec des auditeurs. Ouais, non, en fait, il est... Ouais, pertinente, et je pense que l'orientation générale de division, l'orientation générale qui consiste à stigmatiser les musulmans sans cesse, bon, ça, effectivement, c'est pas nouveau. Et dans ce pays, ils ont un gros problème dans ce pays avec les musulmans, sérieux. Il faut qu'ils arrêtent avec ça. Et oui, tout à fait d'accord avec la dame de tout à l'heure. Les musulmans sont des citoyens comme les autres. Arrêtons de les pointer de pointer du doigt les musulmans, etc.
Ouais,
non, non. Mais par contre, ouais, j'aurais bien voulu qu'on développe plus sur la culture et sur la théorie du grand remplacement, oui. Qui est une théorie farfelue. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit que, en fait, la culture, elle est presque nationale et culture, elle est forcément limitée aux barrières nationales. La culture, elle est d'abord universelle. Elle est d'abord universelle parce que ce qui nourrit la culture, et si vous me permettez de finir ce que je dis, ce qui nourrit la culture, c'est ce que nous sommes en tant qu'être humain. L'homme en tant qu'homme avec un grand H. C'est-à-dire que ce qui nourrit la culture, ce sont les émotions et les affects. C'est ce qu'on est en tant qu'être humain. Et à partir du moment où on limite la culture à un niveau national, on l'étouffe dans un cadre national, alors on étouffe la culture, on l'empêche de se développer et on la, voire parfois on la supprime. Donc donc ce mec-là, il vous fait croire que la culture française, c'est la meilleure, et qu'à partir du moment où on adopte une autre culture qui est différente de la culture française entre guillemets, on est forcément un mauvais garçon. Alors moi, je vous dis que non, parce que la culture, elle ne s'assimile pas. La culture, elle se vit. Donc là, je vais vous dire une chose. Pour moi, je vais utiliser des termes très subjectifs. Zemmour, c'est un chien enragé. Et en France, les chiens enragés, on les anesthésie. Donc là, ce que je propose, c'est qu'on l'anesthésie lors des prochaines élections.
Non, mais de toute façon, il n'ira pas. Alors, d'abord, de toute façon, il n'ira pas puisqu'il n'aura pas les 500 signatures. Et j'espère qu'il ne les aura pas. Et j'espère que... Parce qu'il faut avoir un discours cohérent. D'un côté, on ne peut pas dire que ce gars-là... Je parle pas pour vous, hein. D'un côté, on peut pas dire que ce gars-là, il est ignoble, il est irrespectueux, il est raciste, c'est un fasciste, etc. Et de l'autre côté, avoir un discours hypocrite, allant dire, oui, mais le pauvre, il fait 15% des sondages, alors, c'est pas normal pour la démocratie. Oui, il y a des dictatures qui sont arrivées par la démocratie, et je vous rappelle ce qui s'est passé en Algérie, et c'est par la démocratie que les événements
d'Algérie sont... Elle prend toujours appui sur la démocratie.
Moi, je vais vous dire une chose. D'abord, alors quand je dis les musulmans, moi, je suis musulman. Moi, je vais vous dire. On a ce qu'on mérite. On ne vote pas. On ne vote pas massivement.
C'est pour ça qu'il faut aller voter.
On a toujours une bonne raison. Et donc, tant qu'on ne votera pas... Moi, je vote à toutes
les
élections.
Allez vous inscrire sur les listes électorales, les amis.
Mais tant que vous ne voterez pas, vous serez maltraité. Et pas maltraité par Zemmour, par Le Pen. Maltraité par toute la classe politique.
Il y a aussi les luttes sociales. Il y a aussi les luttes sociales importantes. Les luttes sociales.
Un Zemmour existe parce qu'on a créé un environnement pour qu'il puisse exister. Dernier point. Moi, ce qui me choque, c'est que dans ce pays, l'extrême droite pèse 30% aujourd'hui. 30%, c'est l'extrême droite. Comment on a pu créer une situation où l'extrême droite a pu se développer autant? C'est ça la vraie question.
Et ça, c'est lié au process de production capitaliste, Karim. C'est logique. Tu l'as bien vu en Allemagne dans les années 30.
Oui. Allez voter, c'est vrai, il a raison, il a pas.
Allez voter.
0153483000, je vous attends.
Et militer dans la rue aussi.
Amadou de Grenoble. Bonsoir, Amadou.
Bonsoir à vos invités. Effectivement, Eric Zemmour, son appel, il est même contradictoire avec la Constitution parce qu'on n'appelle pas aux citoyens selon la religion. La religion,
c'est
la logique de Dieu.
Ça, c'est sûr.
Voilà, on ne suit pas la logique de Dieu. La religion suit la logique de Dieu, on ne suit pas la logique de la politique.
Oui.
Tout simplement. Une bonne continuation à vous. Merci de m'avoir passé la parole.
Amadou nous renvoie à quelque chose d'essentiel. C'est qu'il dit qu'effectivement, on n'a pas à nous renvoyer à nos religions là, quand on fait de la politique.
Ah, tout à fait, tout à fait.
Mais bien sûr.
Merci, Amadou.
Mais en fait, c'est un peu le même principe de base que là, avec les femmes qui faisaient du foot et qu'on a pointé du doigt parce qu'elles jouaient au foot en portant le voile. Il n'a pas à pointer du doigt notre appartenance religieuse. Ou alors, dans ce cas-là, il pointe du doigt la personne qui porte une kippa. Vous voyez? Donc, c'est la religion, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Ça te regarde, c'est ton problème. Et c'est ça la base de laïcité. À partir du moment où c'est pour empêcher le prosélytisme destructeur, etc. On fait ce qu'on veut, en fait. Il n'a pas à pointer du doigt l'appartenance religieuse d'une personne. Point.
Allez, on va accueillir Karim. Bonsoir, Karim de Pantin.
Bonsoir Adil, bonsoir à tes invités. Je voulais simplement dire deux petites choses, une petite rectification.
Oui, bien sûr.
Moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, j'étais vachement étonné. Ça ne sert à rien de dire aux gens d'aller s'inscrire sur les listes électorales, parce que depuis, il y a une loi qui est sortie en 2016, j'ai perdu le numéro, là je voulais vous appeler. On est inscrit automatiquement sur les listes électorales dès sa majorité. Alors, et là, après, je suis tombé des nues. C'est pour ça que vous n'entendrez jamais sur les services publics de vous demander d'aller vous inscrire, parce que c'est fait d'office. C'est comme quand vous avez 18 ans, vous êtes signalé directement.
Pour certains, me semble-t-il, il faut le faire. Karim Alouach, non?
Déjà, vous avez tous ceux qui ont déménagé au cours de leur vie.
Ah oui, cela, c'est différent, effectivement.
Si vous ne faites pas vos changements, et puis vous êtes perdu.
Oui, c'est vrai, si vous déménagez, etc. Oui, ça, c'est vrai. Mais disons, en règle générale, les gens sont.
La plupart des jeunes, après, quand vous vieillissez, vous déménagez peut-être au moins une fois. La deuxième chose, c'est que si vous êtes inscrit sur la liste, mais que vous ne savez pas que vous êtes inscrit, ce qui devrait être le cas, on devrait vous informer que vous êtes inscrit sur la liste électorale, donc vous risquez pas d'être sensibilisé.
Moi, je ne savais pas, alors vous voyez.
Moi, je ne dis pas qu'il faut aller s'inscrire, moi, je dis carrément qu'il faut aller voter. Parce que ça ne sert à rien. Moi, je suis en colère contre ceux qui ne votent pas, contre les nôtres qui ne votent pas, qui ont la flemme le dimanche d'aller voter parce qu'il pleut, parce qu'ils considèrent que ça changera rien.
Non, ça c'est faux, Karim, c'est pas parce qu'il pleut.
Non, mais.
Je peux parler.
Ce sont tous des voleurs.
Attendez, Karim de Pantin. Karim, allez-y.
Donc je voulais vous dire, moi je partage tout à fait ce que je viens d'entendre, là c'est vrai qu'on a une communauté malheureusement, mais de moins en moins, faut quand même le dire, qui a la flemme de voter, la flemme de manifester, la flemme de se réunir, etc. Mais vous parliez de, comment il s'appelle, de Zemmour, bon c'est un phénomène qui a été fabriqué, mais il révèle quand même que la France, il y a un problème en France avec l'immigration, et surtout l'immigration maghrébine, parce que vous voyez qu'on parle très peu de l'immigration asiatique, etc. Mais il faut écouter les déclarations. Il n'y a pas que Zemmour. Moi, quand j'écoute Blanquer, j'ai des fois l'impression d'entendre un Zemmour de bonne humeur, si vous voulez. Oui. Parce que c'est exactement les mêmes termes, mais en des termes beaucoup plus, disons, diplomatiques. Donc il a raison quand même. Il faut qu'on aille voter, mais ça ne suffit pas de voter. Encore faut-il bien voter. Parce que moi, dans mon entourage, j'entends des gens dire « Ah ben, moi, je vais voter Zemmour, comme ça, les voyous au bas de l'immeuble, ils seront virés. » Mais Zemmour ne fera pas la différence entre le voyou et toi, c'est ce que je leur dis, moi, aux gens. Oui. Et c'est ça qui est le plus important. Et bon, merci pour votre émission, c'est très bien.
Ben écoutez, merci aussi à vous.
Merci, au revoir, monsieur.
Évidemment, c'est tous ensemble, mon cher Karim de Pantin. Après, on passe au troisième sujet, oui. Où je voudrais entendre... Karim, vous avez raison. Moi, je le dis, il faut aller voter. Je le dis tout le temps en permanence. Il faut aller voter. Il faut aller s'inscrire sur les listes électorales si ce n'est pas fait. Pour certains, et Karim de Pantin nous l'a rappelé, c'est d'office, c'est automatique, mais il faut aller voter. Franchement, il faut aller le faire. C'est comme ça que, évidemment, le rapport de force peut exister. Vous savez quoi ? On va aller dans le 78, les Mureaux. Vous connaissez ?
Oui.
Ouais.
Salah, bonsoir, Salah.
Bonsoir,
Salah. Oui, non,
on vous écoute, Salah.
Non, c'est pas Salah, c'est Abdallah. Il y a une erreur.
Abdallah, mais écoutez, ça arrive tout. Désolé, ouais, non, du côté du standard. Abdallah, on vous écoute, mon cher Abdallah.
Donc voilà, moi je confirme, parce que dans ce cas-là, c'est-à-dire que quand il y a changement de résidence, forcément, il faut se réinscrire.
C'est vrai. Vous le confirmez, effectivement. Vous le dites vous-même à votre entourage dans les Mureaux, les villes voisines, qu'il faut aller voter, parce que là, vous pensez que... Là, il y a un enjeu, mon cher Abdallah.
En fait, il y a un enjeu, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont très dangereux. En fait, il y a des gens...
Oui.
Voilà. Des gens comme Zemmour, tous ces gens-là qui ont l'art oratoire, le pouvoir de parler, d'accord, mais de dire n'importe quoi, ces gens-là sont dangereux. Ce sont des armes en plus puissantes.
Abdallah, vous savez ce qu'il reste à faire, c'est de dire à tout le monde, il faut aller voter. Massivement.
Bien sûr, mais massivement. Il faut surtout bouger, il faut être actif. Malheureusement, notre société, elle est plus active, elle est plus consciente de ça. Elle est consciente, mais elle est plus réactive. En fait, elle est consciente, mais plus réactive. Et là, c'est là où on est dangereux nous-mêmes.
Oui. Attendez, Karim Alouache, voilà. Vous souhaite intervenir. Karim Alouache.
Non, mais il y avait une génération, c'est la génération des années 80, ouais, qui a bougé, mais ils n'étaient pas français. En fait, ils ne pouvaient pas voter, ils n'étaient pas français. Et d'ailleurs, c'est toute une partie qui a formé le nouveau parti socialiste qui a récupéré cette marche. Quand on ne parle pas d'immigration, faut pas se tromper. Quand il s'adresse, par exemple, quelqu'un comme moi, né en France, qui a 57 ans, Quand il parle de l'immigration, il parle de moi, alors que moi, j'ai rien à voir avec l'immigration. Mmh. Il parle de tout, des enfants, des petits-enfants, des voilà, parents. Il met tout dans le même sac. Ouais, bien sûr, et le seul moyen d'installer ce rapport de force, parce que il faut mettre fin à ce sujet. Ça fait 10 ans, 15 ans qu'on est, 20 ans qu'on est dans le sujet islam. Ça ouais, fait, ouais, c'est
30 ans, 40 ans.
À un moment donné,
Je vous rejoins, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas des victimes. Et en fait, moi, les gens disent, oui, il faut pas confondre, faut pas ça. Mais en fait, on n'est pas des victimes. En fait, c'est ce qui peut leur envoyer, devant leur visage. C'est-à-dire qu'on n'est pas des victimes. On fait le job qu'on a à faire, on a notre vie. On a notre vie, chacun a sa vie. D'accord? Le peu de personnes qui foutent le bordel, comme partout, elle est que minime. Elle est que mineure. Nous, on fait le job, on fait notre vie, on s'occupe des enfants, on éduque, on est comme tout le monde. Ces gens-là, ils ne travaillent pas, ils ne savent pas ce que c'est le travail. Mais moi, par exemple, voilà, moi, de 6h du matin, là, je suis à 20h, je suis encore dans mon canon. Je fais le job. Je suis là pour travailler. Ah, on n'est pas là pour... Et les politiques sont là pour nous aider. Mais en fait, ils ne sont pas là pour nous aider, ils sont là pour nous déglinguer. Et donc, on leur donne, ces gens-là qui ont le pouvoir de la parole, on leur donne ça. Et le problème, on veut... Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des politiques. Malheureusement, il n'y a pas de parti, voilà, mais des politiques qui soient actives, qui soient réelles et conscients des problèmes de société. Mais c'est comme partout. Malheureusement, c'est compliqué de répondre à tous les problèmes sociétals. Mais ce gars-là, on lui donne le gage de tout, alors qu'il est rien du tout. Il est à côté de la plaque, c'est un fou. C'est un mec qui. C'est un sociopathe. C'est comme Macron, c'est la même chose. C'est des gens, c'est des tueurs de société. Ils sont là, mais en fait, c'est une folie. Ils sont malades, ces gens-là. Ils sont malades.
Eh bien, merci d'avoir apporté votre témoignage, mon cher Abdallah Demiro. Et bon courage à vous si vous démarrez de 6 heures à maintenant. Effectivement, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci, Abdallah.
Au revoir.
Au revoir, à bientôt. Jimmy Dalidou. Troisième sujet, messieurs, Karim Alouache, parce qu'on va rendre l'antenne. C'est celui des menaces de guerre qui s'intensifient en Ukraine. Guerre ou pas guerre, Jimmy Dalidou.
Alors, je pense que... On va pas refaire le chemin historique parce qu'il faudrait repartir du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, le congrès Khrouchtchevien, en passant par les événements de Maïdan en 2014, la chute du bloc de l'Est qui a fragilisé l'Ukraine et qui a permis d'installer l'impérialisme nord, l'armée de l'impérialisme nord-américain dans la zone, etc. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est est-ce que la guerre est imminente? Bah, j'ai envie de vous dire que les impérialistes, c'est une bataille entre différents pays impérialistes. C'est ça qui se passe en Ukraine. On l'a vu pendant Maïdan. En fait, pendant que une partie le président voulait balayer les accords avec l'Union européenne s'orienter plutôt vers des accords avec les Russes, ils ont organisé, alors ils ont présenté ça à l'époque comme une révolution alors que c'était plutôt un coup d'état fasciste. Et en fait, bon bref, les pays impérialistes veulent la guerre. Le problème qui se pose, il y a deux problèmes qui se posent.
Pourquoi ils veulent la guerre, les impérialistes?
Parce qu'en fait, c'est l'essence de l'impérialisme, l'exportation des capitaux vers les sources de matières premières et de manœuvre bon marché, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais il y a deux choses qui les empêchent de faire la guerre.
Pourquoi
Il y a deux choses. Ils sont en concurrence, les différents pays, les différentes puissances sont en concurrence, mais dans le même temps, ils sont interdépendants. Concurrents et interdépendants. Et ce qui a généré leur interdépendance, c'est la division sociale du travail internationalisée. Ce qui fait qu'on concrètement, le premier pays qui part en guerre, il est face à cet obstacle-là. Un élément central de la mondialisation, ce qu'on appelle l'économie mondialisée. Donc le premier pays qui part en guerre, s'il perd, il va subir une dissolution immédiate de sa nation. Donc ils veulent faire la guerre. Mais il faut qu'ils résolvent ce problème de la division sociale du travail internationalisé avant ce problème de la concurrence et de l'interdépendance.
Jimmy Dalidou, donc on va écouter Karim Alouache.
Bah, tout d'abord, il n'y aura pas guerre. En tout cas, j'espère, parce que c'est pas loin. Mais c'est surtout la preuve que... alors ça, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, déjà en 2020, les États-Unis et puis l'Union européenne n'ont jamais réussi à s'adapter à la nouvelle grammaire diplomatique que font des pays comme, par exemple, la Chine, la Russie, l'Iran, la Turquie, par exemple. Et en fait, le monde diplomatique, il a complètement été bouleversé. Donc ça, c'est la première chose. Et là-dessus, il faut vraiment revoir. La deuxième chose, c'est... il y a un sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un espèce de jeu ou de bras de fer entre Biden et Poutine, et puis nous on est au milieu. Bon, vous l'avez tous vu que on pèse pas grand chose en réalité. On est
voilà. Ah, ça c'est okay. Sûr dans l'échiquier, oui.
Comme dirait Poutine, même pas peur, voilà. Et c'est l'histoire de l'adhésion ou pas de la Russie, de l'Ukraine à l'OTAN, tout simplement. Si Biden arrête de pousser l'Ukraine à aller dans l'OTAN, bah tout le monde sort. Pourquoi? Parce que derrière, Poutine il se dit, mais moi j'ai pas envie d'avoir les bases militaires américaines. À 100 mètres de chez moi, tout simplement. Il est là, le rapport de force. Il est là.
Non, juste hors de l'antenne. Dites-moi.
Ah, non, c'est juste pour dire que la Russie, faut pas oublier qu'ils sont intégrés dans ce qu'on appelle les BRICS, le bloc des pays capitalistes qui sont en voie de consolidation et qui, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS. Et en fait, on assiste à une confrontation entre deux blocs économiques, le bloc des vieux pays capitalistes et le bloc des jeunes pays capitalistes qui, eux, veulent leur part du gâteau.
Merci, c'est ça aussi le rapport de force. Merci pour cette analyse et ce décryptage. Merci à Jimmy Dalidou, syndicaliste CGT, mais également auteur. Au merci plaisir. Merci à Karim Alouache, acteur politique local, donc sur la ville de Bondy. Et il est financier. Associatif aussi également. Voilà. Et financier. Merci Karim Alouache.
Merci à vous. Bonne soirée.
Merci mille. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent de toute la France. Vous êtes formidables, je vous le dis. Parce que les informés, c'est vous d'abord. À la réalisation, Yanis, tout de suite, c'est Bilal Nedman, de 20h à 21h, avec le choc PSG Real Madrid, les amis. Viva PSG et viva Real Madrid. À demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en bourse.